Plusieurs d'entre vous la connaissent et elle a fréquenté notre église il y a bien longtemps déjà, de nombreuses années comme missionnaire au Liban, comme institutrice et autres choses, bien beaucoup d'autres choses qu'elle nous dira maintenant. Je vais lui mettre le casque, pas le casque du salut. Mais...
avec les lunettes en plus.
Bon. J'ai branché, j'ai prié pour Catherine. Seigneur, merci pour Catherine, pour la visite qu'elle nous fait ce matin. Je te demande de loin d'une onction particulière, de lui faire du bien, qu'au travers de ses paroles, nous soyons aussi nous enrichis et que nous puissions aussi prier pour tout ce beau travail qui est effectué là-bas à Beyrouth. Seigneur, sois vraiment avec elle et avec nous durant cette matinée. Amen.
Amen. Qui c'est qui est déjà venu au Liban en montant? En montant? Ok. Ah, d'accord. Donc, chaque fois que je reviens ici, il y en a un petit peu plus, ça fait plaisir. Et vous verrez que René et Marianne y étaient vraiment, parce qu'on les verra sur une photo tout à l'heure à la fin de mon message. J'aimerais juste avoir une pensée pour les chrétiens de Syrie ce matin. Je ne suis pas sûre qu'à Alep, ils aient pu se réunir. Ils sont plus de 10% quand même en Syrie, comme chrétiens. Et c'est pas facile en ce moment. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez important pour changer les choses autour de vous, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. C'est de la sagesse chinoise. À côté de celui qui priait et cherchait la vérité, on passait à un mendiant, un aveugle, un pauvre, un homme blessé. Alors qu'il les voyait, cet homme a crié « Grand Dieu, comment cela se fait-il que toi, Créateur aimant, tu supportes de voir cela et ne fais rien ?» Et Dieu de répondre « J'ai fait quelque chose. Je t'ai créé toi. » C'est de la sagesse soufie. Car nous lui devons notre paix, car il est notre paix, c'est le titre de ce message. Comment honorer cette paix reçue et être porteur de changement autour de moi ? Il y a plus que de la sagesse humaine, si profonde soit-elle, il y a celui à qui nous devons notre paix. Car nous lui devons notre paix, il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. Comment ? En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Éphésiens 2, 14. Fin juillet, nous avons revu et repensé le plan stratégique pour le centre éducatif ainsi aussi que pour le centre médical que nous avons fondé au Liban. Et pour le centre éducatif, le groupe était formé de 4 personnes, une consultante, 2 membres du personnel et moi-même. Et nous nous sommes posés des questions fondamentales. Qu'est-ce que nous voulons faire avec le centre éducatif et comment nous voulons le faire ? Un des aspects importants de la discussion était que faisons-nous de la religion au centre éducatif Tahadé ? Nous étions 4, une chiite, une sunnite, une grecque catholique et moi-même. Le ton était donné, c'est le défi de Tahadé d'ailleurs. Tahadé signifie le défi en arabe, c'est vivre ensemble, aller au-delà de la religion qui d'habitude sépare pour trouver ce qui nous unit. Et en général, ce qui nous unit, ce sont des motivations communes, des valeurs communes, il y en a, un amour pour les enfants et les personnes avec qui nous travaillons. Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut travailler en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, de conflit, qu'on s'entend sur tout, mais quand on peut revenir à ce qui fait, à ce qui est commun entre nous, alors on peut surmonter ce qui peut nous séparer. Christiane, notre consultante, nous a raconté une histoire intéressante. Alors qu'elle était jeune dans son village du nord du Liban, lors de la fête de l'Adha, qui est une des fêtes centrales de l'islam, c'est la fête du sacrifice d'Abraham, eh bien, elle se rappelle bien que le prêtre et le cheikh égorgeaient ensemble le mouton de la fête et tout le village dégustait une part de mouton rôti dans une ambiance festive. Et ce n'est que bien plus tard, lorsque la guerre civile a éclaté, que Christiane s'est rendu compte que l'Adha, c'était une fête musulmane. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. Comment ? En livrant son corps à la mort. Et alors, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que nous vivions en paix? Eh bien, le texte le dit, ce sont les murs que nous dressons entre nous. Après le décès de notre mère, nous avons mis la maison en vente et une des premières choses que le voisin a fait, qui est un membre de la famille, il a mis un mur entre les deux jardins qui n'en faisaient qu'un avant. Et pourtant, les enfants aiment les murs, parce que sur les murs, on peut grimper, on peut faire de l'équilibre, on peut dessiner, et même les plus âgés, pour les plus âgés, le mur peut devenir support artistique ou sportif. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice avec les murs. Depuis là où vous êtes, dans votre tête, vous allez visualiser un mur réel que vous connaissez et vous allez vous demander à quoi il sert. Je vous donne quelques secondes. Visualisez un mur réel, premier qui vous vient dans la tête, et vous demandez à quoi il sert. Ensuite, vous réfléchissez, un petit peu plus difficile, à un mur qui n'est pas physique, mais qui oppose des groupes de personnes dans la société, et vous essayez de lui donner un nom. Méfiance, dégoût, peur. Donc un mur qui n'est pas physique et qui oppose deux groupes de personnes dans la société. Et enfin, un mur dans votre cœur, derrière lequel vous vous cachez peut-être, ou alors qui est dressé entre vous et quelqu'un d'autre. Et puis, si vous avez la liberté d'aller au-delà du mur qui vous sépare peut-être de votre voisin de chaise, si vous pouvez partager très brièvement sur un seul des murs auxquels vous avez pensé. Un seul des murs sur lesquels vous avez pensé. Comment on l'éteint ? Voilà. Le mur physique auquel j'ai pensé, c'est celui du centre éducatif. Et pendant mon absence, pendant ce mois d'août, on va poser une barrière encore au-dessus du mur de protection afin de le sécuriser un maximum parce qu'il est très facile d'y pénétrer et les enfants en particulier, à partir des toits des voisins, peuvent facilement sauter le mur et éventuellement se blesser en tombant. Et puis on a aussi remarqué qu'il y avait une bonne dizaine de fils électriques qui passaient par-dessus le toit et qui étaient attachés aux citernes d'eau. Donc ça veut dire que les gens viennent, montent sur le toit et tout ça. Et pour rejoindre le poteau électrique en face du centre et se relier de manière illégale pour avoir de l'électricité. Donc, mais malgré tout, on a observé aucune dégradation. Les gens viennent, mais pour faire des choses pour eux, quoi. Mais il y a eu très peu d'objets qui ont été jetés par-dessus le mur, alors que ce serait très facile de jeter des ordures juste pour embêter. C'est extrêmement rare que ce soit fait, signe du respect dont nous jouissons dans la population. Les murs auxquels vous avez pensé ont certainement tous des fonctions de protection, de délimitation, de séparation ou de sécurité. C'est valable pour toutes les sortes de murs, physiques ou non. Un mur protège physiquement peut-être des animaux, du froid, des intempéries ou bien de la terre. Là, tu me partageais un mur utile qui empêchait la terre de tomber. Mais aussi des autres, bien sûr. Limite mon territoire, mais aussi dit à l'autre, ne va pas plus loin. M'assure une intimité, mais aussi me sépare des autres, m'en cache. Me met en sécurité, mais peut aussi vouloir dire que celui qui est de l'autre côté du mur menace ma sécurité, ou mon idéologie, ou mes idéologies. Le mur est souvent un signe d'échec. Si je dois me protéger de l'autre, c'est que je ne suis pas arrivée à dialoguer avec lui. Je le crains, il me fait peur, ou il me menace. Il peut manquer de respect, que ce soit sur des questions de territoire, de frontières, de jardin ou envers ma personne, physique ou morale, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Si du temps de Jésus, vous aviez désiré visiter le temple de Jérusalem, vous n'auriez pas été plus loin que le parvis réservé aux non-Juifs. Voici ce que John Stott, théologien bien connu, écrit au sujet de ce mur. Le mur de séparation était le symbole de cette double aliénation des païens à l'égard de Dieu, étranger à sa vie, et à l'égard du peuple de Dieu, étranger aux alliances de la promesse. Cette séparation apparaissait nettement dans le splendide temple construit par Hérode le Grand à Jérusalem. Le sanctuaire lui-même se dressait sur une terrasse surélevée. Tout autour s'étendait le parvis des prêtres, à l'est de celui des hommes, et plus à l'est encore, celui des femmes. Ces trois parvis se trouvaient sur le même niveau que le sanctuaire, mais 14 marches en contrebas étaient érigées un autre mur au-delà duquel se situait la cour extérieure réservée aux païens. De n'importe quel endroit de cette cour, les païens pouvaient lever les yeux et apercevoir l'édifice, mais ils n'avaient pas le droit de s'en approcher. Ils en étaient séparés par le mur de pierre d'un mètre et demi de hauteur sur lequel étaient gravés, à intervalles réguliers, des avertissements en grec et en latin. Il était écrit non que les transgresseurs seraient poursuivis, mais qu'ils seraient exécutés. Une des grandes tendances de l'être humain, si nous ne gardons pas notre cœur, est d'exclure l'autre, et ainsi de penser que quelque chose fait de moi quelqu'un de supérieur. À Tahadé, nous nous occupons de groupes de personnes très pauvres, et l'un d'entre eux est un des groupes les plus méprisés au Liban, si ce n'est dans le monde, puisque ce sont les Dom, proches parents des Roms, et on entend beaucoup parler, surtout en été. Mais les Dom ne sont plus des gens du voyage, ils sont trop pauvres, et ils se sont établis dans les pays du Moyen-Orient, souvent sur des terrains qui ne sont pas à eux. Or, plus un groupe de personnes est méprisé, plus il est vulnérable et moins il a accès à ses droits, même s'il possède une nationalité. Souvent, des personnes nous ont dit « C'est magnifique ce que vous faites, mais rien de bien ne peut sortir de ces enfants et de ces familles. » Et ils parlaient des enfants et des familles d'hommes. L'effet pervers de telles paroles, c'est que ce que les autres pensent de moi ou d'un groupe de personnes va être inconsciemment intériorisé. Et je vais me comporter comme les autres attendent de moi que je me comporte. Et donc à Tahadé, on a à nous battre pour que des enfants, des familles, regagnent une estime d'eux-mêmes, soient fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, réussissent, changent, s'affirment positivement. Les parents se débattent encore plus que leurs enfants dans ce cercle vicieux. Mais d'hommes ou non d'hommes, toutes les familles affrontent les mêmes problèmes qu'engendrent une très grande pauvreté et le manque d'éducation. Ainsi, inconsciemment, certains vont à un moment donné priver leurs enfants de la chance de s'en sortir par l'éducation. Pourquoi ? Parce que la réussite de leurs enfants leur renvoie à leur propre échec et menace leur autorité. Pour l'affirmer, le seul moyen peut paraître d'interrompre brutalement et de manière irrationnelle la scolarité d'un de leurs enfants et de le remettre dans le circuit de la misère. « Tu seras comme moi, mon fils, ma fille. » Ainsi, Asia, dont le père a décidé soudainement qu'elle n'irait plus à l'école car il a trouvé sur un de ses cahiers un cœur avec deux initiales. Rien d'autre que des dessins innocents de pré-ado, mais l'interdiction est tombée violemment. Battue par son grand frère, Asia a eu l'interdiction de retourner à l'école. Pendant un moment, on a essayé de lui passer les livres de maths et d'arabe par sa sœur, qui revenait chaque matin, mais c'est devenu trop difficile pour Asia de continuer sans assister aux cours, et bientôt les livres ne sont plus revenus. Il ne nous était même pas permis de lui rendre visite. On ne peut pas jeter les pierres aux parents, parce qu'eux-mêmes souffrent de cette situation, mais travailler de manière constructive avec eux aussi. Miss, vous pouvez aller parler à mon père. Hiba est arrivée en courant un matin du mois de mai au centre, sans son uniforme après 10 jours d'absence. Emmenée dans son village de force, le bruit courait que son père voulait qu'elle arrête l'école. Et c'était le seul moyen qu'il avait trouvé de se venger des problèmes conjugaux, des problèmes de couple avec sa femme, qui, elle, voulait que sa fille continue d'aller à l'école. De retour à Beyrouth, la première chose que Hiba a faite, c'est de courir au centre sans demander la permission à qui que ce soit et de demander la permission de le réintégrer. et en même temps de me demander d'aller voir son père. Alors j'y suis allée tout de suite, j'avais le temps, et puis je l'ai vu avec diplomatie, je lui ai expliqué que ça serait vraiment un choix extrêmement intelligent de sa part de permettre à sa fille de terminer au moins l'année scolaire avec nous. Et de retour en classe, j'enseignais les maths ce jour-là, et c'est le seul cours que je peux encore enseigner. Le reste, c'est le reste du temps, je dois former les enseignants ou gérer le centre et m'occuper de levée de fonds. Mais j'aime bien encore enseigner au moins une classe. Et donc, Iba m'attendait anxieusement, il me dit « Alors ?» Je lui dis « Écoute, devant moi, il a dit que oui, tu pouvais continuer, mais bon, est-ce qu'il va tenir parole ?» Et alors là, il y a quelque chose de vraiment incroyable qui s'est passé. Un des enfants a dit « On pourrait prier ?» Et alors on s'est tous levés, et nous on prie comme ça, on se donne les mains, c'est la manière dont on prie. Et alors on s'est donné les mains, et puis j'ai prié, et d'autres enfants ont prié pour Iba. Et Iba a prié aussi. Et nos enfants sont donc tous musulmans. Alors bien sûr, je pense qu'ils ont appris avec nous cette liberté de prier. J'étais vraiment contente qu'ils l'aient avec moi, de pouvoir demander comme ça de prier. Et, mais la foi de ces enfants m'a vraiment bouleversée et m'a donné une belle leçon d'humilité parce que moi, je n'avais pas pensé qu'on pourrait prier pour elles. C'est vraiment eux qui m'ont rappelé ça. Et pour moi, c'est vraiment Éphésiens 2,14 qui s'est incarné dans l'initiative de ces enfants. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. À noter que Asya et Iba ne sont pas des enfants d'hommes. Ce qui différenciait le peuple de Dieu des autres à l'époque de Jésus, c'était le signe visible de la circoncision. Ceux-ci pensaient connaître Dieu et être connus de lui, et donc les autres représentaient une menace et étaient méprisés, tenus à l'écart. Les fréquenter de trop près, c'était s'exposer à être impur. Et voilà donc une autre fonction des murs que nous nous construisons, c'est l'illusion de la pureté. Derrière le mur, je reste pur, pureté physique ou alors pureté idéologique la plupart du temps. La loi donnée pour le bien du peuple par Dieu s'était transformée par une mauvaise interprétation empreinte de l'esprit tordu de l'homme en une façon de classifier et séparer ceux et ceux qui étaient purs de ceux et ceux qui ne l'étaient pas. La loi était alors devenue la cause de l'hostilité entre les juifs et les non-juifs, cause de tension et d'amertume. Mais le mur qui divisait ces peuples n'était pas seulement horizontal entre eux, mais il était également vertical entre Dieu et ses créatures. Pas de paix possible, donc, et l'architecture du temple en témoignait. Pourtant, les deux dimensions du mur se sont écroulées au moment où les deux dimensions de la croix ont reçu Jésus, qui par sa mort et sa résurrection a restauré la relation, réconcilié l'humanité avec Dieu et fait de l'humanité un seul peuple, appelé à louer n'importe où en esprit et en vérité. La séparation de la circoncision, les murs ne sont plus valables comme signe distinctif. Et en Romains 2,28, on lit « Car ce n'est pas la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. » Quand Paul écrit la lettre aux Éphésiens, le temple de Jérusalem et tout ce qui faisait sa gloire a été détruit. Mais Paul, qui lui-même a connu la servitude de la loi dans son corps et dans son cœur, sait que ceux qui étaient exclus sont maintenant inclus, ceux qui étaient loin sont maintenant proches, ceux qui étaient considérés comme impurs sont purs, ceux qui étaient coupés de Dieu sont maintenant pleinement en relation avec lui, le mur a été remplacé par un pont, les menaces de mort par des paroles de vie. Mais cela a eu un prix, car nous savons bien que nous sommes complètement incapables d'abattre par nous-mêmes les murs, preuve en est ce que nous vivons dans notre quotidien ou de ce que le monde vit autour de nous. Un seul pouvait le faire au travers de sa mort et de sa résurrection, et c'est Jésus. Il est la clé d'une vie nouvelle, d'une citoyenneté nouvelle et de relations transformées entre les hommes et avec Dieu. Éphésiens 2,19, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie des membres de la famille de Dieu. Il est notre paix, une vraie paix qui ne dépend pas de nous, mais qui nous a été offerte. Les murs sont devenus caducs, ils n'ont plus lieu d'être, ils ne sont qu'une tentative et une agitation dérisoire de l'homme qui n'a pas compris l'œuvre rédemptrice de Dieu ou alors n'en veut pas. » Car la destruction du mur n'est pas seulement physique, elle est bien sûr spirituelle. Une nouvelle loi a donc été promulguée et inscrite, non dans la chair, mais dans le cœur. Une nouvelle économie de vie a été inaugurée, qui ne mène non plus à la mort, mais à la vie éternelle, promise en Jésus, le Christ, le Messie. J'aimerais que nous regardions maintenant deux courts extraits d'un documentaire qui a été fait au Liban en 2011 et qui s'appelle « À contre-courant ». Ce sont des témoignages de religieux ou de laïcs de différentes confessions ou différentes religions qui tous ont contribué à jeter des ponts entre les communautés qui se déchiraient pendant la guerre civile au Liban, entre 1975 et 1990. Celui que vous allez entendre tout d'abord, c'est le père Makram. Il est l'auteur de plusieurs initiatives qui ont fait beaucoup de bruit pendant la guerre. Tout avait un seul but, jeter des ponts entre les communautés qui se déchiraient. Alors il se souvient et il raconte une histoire qui l'avait particulièrement touché alors qu'il visitait sans relâche, au péril de sa vie, des groupes de jeunes de différentes confessions, différentes religions qui se faisaient la guerre. Il rapporte quelque chose qu'il a vécu avec un jeune homme musulman et il cite un autre groupe de jeunes phalangistes à Sine El Fil. Sine El Fil, c'est un quartier de Beyrouth. Les phalangistes, c'était un groupe politique chrétien. Le deuxième extrait, c'est est raconté par une femme, qui une femme musulmane, qui raconte, qui rapporte un fait divers d'un imam bien connu qui avait rassemblé au moment de la guerre dans un mouvement pour les laisser pour compte des gens de tous bords et de toute religion. Et ils étaient mus par un devoir de justice sociale. Or, pendant la guerre, elle raconte qu'un homme de Saïda, un chrétien, avait vu sa clientèle de vendeurs de glace fortement diminuer après que des personnes mal intentionnées avaient dit que manger chez un chrétien, c'était contre la religion musulmane. Alors Antipas, il s'appelle, c'est son nom, le chrétien, est alors allé se plaindre chez l'imam. Non pas chez le prêtre, mais chez l'imam, parce qu'il savait que lui était engagé dans ce combat pour le dialogue. Et cette femme raconte comment l'imam est intervenu dans cette affaire. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, il quitta la ville et se rendit à Béthanie. Savez-vous que si Jésus avait vécu maintenant, ce verset n'aurait pu être écrit de la même manière? Je vais vous lire un extrait d'un projet porté par la Fondation d'Auteuil en France, fondation qui, tout comme Tahaddé, se définit comme « faith-based », c'est-à-dire qu'elle a comme fondement la foi et le désir de la partager en action comme démonstration de l'amour de Dieu. Le projet est situé dans le village de Béthanie, à Al-Azariyé en arabe, en périphérie de Jérusalem. Voici la présentation du projet, et je cite « La situation socio-économique d'Al-Azariyé et de sa région, 25 000 habitants, s'est considérablement détériorée au cours des dernières années. La précarité socio-économique de la région se trouve particulièrement affectée par la politique de restrictions économiques, physiques et administratives imposée par les autorités israéliennes. La localité, qui avait toujours été intégrée à l'activité économique de Jérusalem, principal bassin d'emploi de la région, se trouve désormais isolés par le mur de séparation. Les habitants d'Al-Azariyé, ou Béthanie, n'ont plus accès aux emplois ni aux services disponibles à Jérusalem. Selon les estimations de la municipalité, le taux de chômage y avoisine aujourd'hui les 35%. De plus, la marginalisation d'Al-Azari et des villages environnants a favorisé l'apparition de la violence et le développement de la consommation de drogue. La plupart des enfants étaient scolarisés avant la construction du mur à Jérusalem, et la commune, qui ne compte que 8 établissements scolaires, ne peut plus faire face à la demande. Aussi, le nombre d'enfants en situation d'échec scolaire ne cesse d'augmenter. En dehors des heures de cours, plus qu'une demi-journée maintenant à cause du manque de place, ils sont le plus souvent livrés à eux-mêmes dans la rue. Et le projet donc demande des fonds pour la construction d'un centre éducatif et de rattrapage scolaire. Certains se heurtent donc à un mur et souffrent, d'autres essayent de franchir le mur et d'apporter espérance. Ainsi, l'association Shevet Achim, située en Israël, vient en aide principalement aux enfants palestiniens qui ont de graves maladies de cœur et ne peuvent pas être opérés en Palestine. Le nom Shevet Achim vient de l'hébreu et du psaume 133. « Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble ». Parce que c'est là que Dieu accorde sa bénédiction, sa vie pour toujours. Et voici ce qui est dit sur leur site. Nous croyons que cette promesse est là pour transformer les relations troublées entre les enfants d'Abraham au Moyen-Orient. Shevet Achim est une expression de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous croyons qu'au centre de l'interaction entre juifs, chrétiens et musulmans, il y a la grâce reçue qui devient grâce donnée, l'amour reçu qui devient amour donné. Une fois les autorisations obtenues, les enfants sont transportés en Israël avec leurs parents et ces séjours permettent de construire des ponts avec ces familles et leurs enfants. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Dans notre association, qui compte 2 centres médicaux et 1 centre éducatif, le défi est de combattre des murs d'idées préconçues et de faire en sorte que les gens se rencontrent, car on ne craint que ceux qu'on ne connaît pas. Tahadé se veut d'être ainsi un pont entre les communautés d'hommes et non d'hommes du quartier où nous travaillons, mais aussi entre les membres du personnel, eux-mêmes qui sont de différentes religions, différentes confessions, et entre le personnel et les communautés avec lesquelles nous travaillons. En cela, nous témoignons de ce que Jésus a déjà accompli, abattre les murs de méfiance et d'incompréhension pour construire des ponts, d'abord en nous-mêmes, puis avec les autres. Au centre médical, lors de sessions de santé publique, c'est difficile pour les femmes d'hommes de s'asseoir, ou pour les femmes non d'hommes, de s'asseoir à côté des femmes d'hommes. Et Tahadé leur offre ainsi l'occasion de partager et de se rencontrer et de constater qu'elles ont les mêmes difficultés et qu'elles aspirent aux mêmes choses. En accueillant tous les enfants et tous les parents, quelle que soit leur origine, de la même manière, avec les mêmes soins et la même attention, avec un personnel qui en lui-même est un signe de réconciliation, Tahadé est un signe fort dans un quartier difficile. Mais nous y travaillons sans relâche, travail sur nous d'abord, puis travaille avec les autres. Notre mission à tous, eh bien, c'est de refléter cette paix et de faire en sorte que les autres la désirent. Les murs ne sont jamais détruits par un sentiment de supériorité ou un agenda caché. Je t'invite, je t'offre à manger, je t'éduque ou je te soigne, mais en échange, tu dois devenir ceci ou tu dois faire cela. Les murs sont détruits par l'amitié réelle que nous portons à ceux qui sont différents de nous et que Dieu a à cœur. Vivre pour Jésus n'est pas une suite de devoirs ou de lois, c'est l'expression de la liberté qu'il nous a offerte au travers de sa mort et de sa résurrection. Plus de murs, nous sommes donc libres d'accueillir l'autre dans sa différence et faire confiance que Dieu veut faire de cette relation quelque chose de riche, quelque chose qui nous enrichit l'un l'autre, dans le repos que nous donne l'assurance que le mur de séparation de haine a été détruit. Les murs sont un signe de non-repos, de restriction de liberté, de désunion, mais en Jésus, et je cite Galates 3:28, il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Amen. J'ai beaucoup parlé de notre association Tahadé. J'aimerais pour terminer vous montrer le résumé d'une année de travail dans les deux centres, qui sont principalement dans un des quartiers de Beyrouth. Il y a un deuxième centre médical qui est dans un autre quartier, avec des vues des enfants et de leurs familles dans le quartier de là où nous travaillons. vous remarquerez les contrastes entre le quotidien des enfants et de ses familles et les centres eux-mêmes, et les lieux aussi où nous emmenons assez souvent les enfants du centre éducatif tout au long de l'année. Des sorties éducatives, le camp, des sorties ludiques. Et pourtant, les centres sont vraiment au cœur même du bidonville, ils ne sont pas à côté dans un autre quartier. Et puis, les lieux dans lesquels on emmène les enfants sont à quelques kilomètres de leur quartier. Mais nos enfants, ils n'ont pas les moyens d'en sortir, ou alors, à cause de leurs conditions, ont peur de se rendre dans des lieux différents où ils ne se sentiront pas à l'aise. Notre but au centre éducatif, quand on fait ça, quand on prend les enfants dehors, c'est d'élargir l'horizon de ces enfants et de leur donner du courage et l'envie de se battre pour s'en sortir. Au centre médical, en plus des soins médicaux gratuits et des cours de santé publique qui sont donnés aux femmes, on a engagé une nouvelle assistante sociale le mois passé et du coup l'éventail des services est agrandi par une aide pratique de conseils, d'écoute, un accompagnement des personnes dans des démarches administratives ou juridiques, là où leur statut social, encore une fois, rend ces démarches beaucoup plus difficiles. Non, parce que déjà, il faut vraiment beaucoup se concentrer. Hein. Ce serait dommage si... Désolée.